droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa seconde et dernière émission du mois de novembre. Voilà, et pour l'animer ce soir avec moi, il y a Françoise.
Bonsoir.
Et il y a Juliane.
Bonsoir.
Juliane, que vous avez déjà entendu à la dernière émission, mais qui est revenue et qui va vous parler, je ne vais pas dévoiler de secret, mais restez à l'écoute comme on dit toujours, mais qui va vous parler tout à l'heure d'Amazon et de responsabilité sociale des entreprises. J'en dirai pas plus, mais c'est tout à fait intéressant et tout à fait éducatif, dirons-nous. Voilà. Ce soir, encore une fois, beaucoup de sujets à aborder. On va vous parler en début d'émission d'une grosse campagne dont on vous parle tous les ans, une campagne d'Amnesty International, au sens propre du terme international, parce que toutes les sections d'Amnesty à travers le monde, et il y en a 75 officielles, reprennent cette campagne, qui s'appelle « 10 jours pour signer ». 10 cas d'atteinte aux droits humains, 10 personnes ou 10 groupes de personnes que l'on défend, et qui ont été emprisonnés ou dont les droits sont bafoués et pour lesquels on demande effectivement justice et libération. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure dans très très peu de temps avec Françoise, donc 10 jours pour signer et ça commencera le 4 décembre. Mais juste avant, je voudrais faire deux petites annonces. Alors la première annonce, c'est qu'on va dédier l'émission ce soir à la Journée internationale des droits de l'enfant qui a eu lieu comme tous les ans le 20 novembre. Et cette année, bon, à cause du confinement et de toutes les contraintes sanitaires qui existent, nous n'avons pas pu faire les animations qu'on avait projeté de faire avec d'autres associations en début d'année. On a dû tout arrêter. Et donc, c'est bien dommage, mais ce n'est que partie remise. On se retrouvera l'an prochain. Mais donc, on dédie cette émission aux droits de l'enfant. Et je crois que Françoise vous dira un tout petit mot sur les droits de l'enfant tout à fait à la fin de cette émission. Et la deuxième dédicace à cette émission s'est adressée à monsieur, alors je crois que c'est la première fois qu'on fait ça, mais s'est adressée à monsieur Fabien Gouttefarde, député d'Évreux, qui fait partie du parti La République En Marche, et avec qui on a eu des échanges par mail la semaine dernière, des échanges assez fournis. Alors on va lui décerner, nous en tant qu'Amnesty Évreux, un mauvais point et un bon point. Je vais commencer par le bon point, c'est plus positif. Il nous a soutenu, monsieur Gouttefarde, pour la campagne. Vous en avez parlé au moins aux deux ou trois dernières émissions qu'on a faites depuis la rentrée de septembre sur les atteintes aux droits des femmes en Arabie Saoudite et la campagne menée par Amnesty dans le cadre du G20 qui était sous la direction donc de l'Arabie Saoudite et qui s'est tenue le week-end dernier. Donc à cette occasion-là, on demandait de se mobiliser à travers les réseaux sociaux et autres pour défendre ces femmes qui sont en prison en Arabie Saoudite parce qu'elles ont simplement revendiqué leurs droits. Et donc, M. Gouttefarde nous a soutenus et a publié effectivement les annonces d'Amnesty sur ses pages Facebook et Twitter. Donc, très bien, merci M. Gouttefarde. Par contre, M. Gouttefarde nous a répondu aussi dans une autre campagne qui est actuellement en cours, qui est les observations négatives que fait Amnesty International avec d'autres ONG sur le projet de loi qui est en débat actuellement à l'Assemblée nationale, et qui s'appelle « Loi pour la sécurité globale ». Et donc, vous en avez aussi entendu parler hein, dans les médias, forcément, on en a beaucoup parlé ces jours-ci. Donc, on a interpellé M. Gouttefarde sur ce dossier-là, et il nous a répondu que non, nos arguments n'étaient pas justifiés, et qu'il lui soutiendrait ce projet de loi sécurité globale. Et donc, simplement un article sur lequel on s'est opposé, lui et nous, c'est qu'il donne l'article 24 qui soutient que donc le fait de ne plus être autorisé à publier sur les réseaux sociaux des photographies de policiers ayant commis ou non des violences policières et en appelant effectivement au lynchage ou à l'agression physique vis-à-vis de ces personnes, que la loi, que cet article 24 n'était destiné qu'à ça. Et on lui a répondu qu'en fait, la loi prévoit déjà l'interdiction et les poursuites, quel que soit, qu'il s'agisse de policiers ou pas de policiers, la loi condamne effectivement déjà le fait que des gens puissent être menacés sur les réseaux sociaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont menacés. Ça, c'est tout à fait évident. Donc cet article-là, en tant que tel, entre guillemets, ne sert à rien, si ce n'est à envoyer un message aux forces de police qui peuvent se livrer, ça arrive, à des violences policières, en leur envoyant un message en leur disant « Ne vous inquiétez pas, on vous couvre ». Et nous, on maintient effectivement que cet article-là a cette arrière-pensée, même si ce n'est pas mis dans le texte. Voilà. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'on reviendra longuement dans les prochaines émissions sur ce projet de loi sécurité globale. On aura l'occasion d'en reparler en détail. Mais donc, je voulais quand même faire cette petite dédicace à M. Gouttefarde, peut-être qu'il nous écoute ou peut-être qu'il nous écoutera. Donc, M. Gouttefarde, la semaine dernière, avec Amnesty, vous avez eu un bon point et un mauvais point. Voilà. Donc, campagne 10 jours pour signer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était donc 10 cas de défense annuel remis en avant par Amnesty, 10 cas de défense de personnes ou de communautés victimes dans leurs droits fondamentaux. Et donc, on va vous lire un petit résumé des différents cas qui sont proposés cette année. Et ce sera ouvert à signature. Alors, dans un premier temps, essentiellement sur le site d'amnesty.fr, ce sera ouvert à signature sur des pétitions à compter du 4 décembre prochain. Voilà. Donc, Françoise ?
Bien, je vais vous parler du cas de Gustavo Gatica, quelqu'un qui est au Chili. La vie de Gustavo Gatica ne sera plus jamais la même. Ce 8 novembre 2019, cet étudiant en psychologie de 21 ans se joint en manifestation contre la vie chère et les inégalités à Santiago. Lors de la violente dispersion du rassemblement, un policier tire sur les manifestants à faible distance, à hauteur de visage. Des projectiles atteignent Gustavo Gatica aux yeux, c'est le trou noir. Un an plus tard, le jeune homme est d'un calme impressionnant. Il a vite appris à lire le braille, à réutiliser son téléphone et son ordinateur. Se déplacer avec une canne est pour l'heure plus difficile. Ayant dû renoncer à sa passion pour la photo, il se consacre désormais d'autant plus à la musique. Dépourvu de colère, Gustavo Gatica ne souhaite que la justice. « J'ai donné mes yeux pour que le peuple puisse ouvrir les siens », espère-t-il. Pour que son cas contribue à impulser une réforme de la police et que plus personne ne subisse ce qu'il a vécu. Il aura fallu de longs mois de mobilisation pour que le tireur présumé, un haut gradé des forces spéciales, déjà identifié par Amnesty sous le code G3, soit enfin arrêté et inculpé pour ses faits. Dans son rapport interne du 9 décembre 2019, la police a suggéré que les blessures de Gustavo pouvaient être le fait de manifestants et elle a même tenté de dissimuler la présence de ce policier lors de la manifestation. Aucun responsable hiérarchique n'est pour l'heure inquiété pour avoir couvert ses agissements ni pour obstruction à la justice. La responsabilité du commandement est pourtant bien en cause, manifestants blessés par milliers, détenus torturés. Le mouvement social chilien de 2019-2020 a été réprimé avec une violence systématique inédite depuis la fin du régime militaire. Donc on demande, on écrit aux autorités chiliennes, on s'adresse au procureur général du Chili, au directeur général de la police, de façon à ce que l'enquête sur l'affaire de Gustavo Gatica soit conclue de façon exhaustive et impartiale et de faire la lumière sur toutes les responsabilités au sein de la chaîne du commandement. Ensuite, de traduire les fonctionnaires soupçonnés d'être responsables des violences, de lui accorder des réparations adaptées et de mettre en place des mesures concrètes pour faire cesser l'usage disproportionné de la force de la part des membres de police. Et on appelle les gens qui signeront cette pétition à lui témoigner son soutien. Voilà pour le cas du Chili.
Bien, maintenant je vais vous parler de personnes qu'on défend en Turquie. Même à l'université en Turquie, on apprend à se taire ou à résister. Melike Balkan et Özgür Gür ont choisi la seconde option. À Ankara, ces étudiants en biologie animent Solidarité LGBT, une association qui lutte contre les préjugés liés à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre au sein de l'Université technique du Moyen-Orient. Nous nous battons contre une société qui cherche à définir ce que nous devons aimer, à régenter nos corps et notre sexualité, explique Méliké. Face à une vague de LGBT-phobie décomplexée, l'association multiplie les événements, projections de films, groupes de parole, rassemblements, campagnes de sensibilisation. Les étudiants doivent jouer au chat et à la souris avec l'administration de l'université qui leur coupe parfois l'électricité ou déclenche le système d'arrosage pour les chasser des pelouses. Mais les choses deviennent plus sérieuses en mai 2019 lorsque le recteur interdit la marche des fiertés du campus, organisée tous les ans depuis 2011. Solidarité LGBT décide de transformer l'événement en sit-in. La police disperse la manifestation pacifique à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc, puis interpelle toutes les personnes présentes, participantes ou simples passants. Malika et Osgur sont traînés en justice, ainsi que 16 autres étudiants et un professeur pour avoir pris part à un rassemblement illégal et refusé de se disperser. Un tribunal d'Ankara a reconnu en juillet 2020 que l'interdiction de cette marche était illégale et pourtant le procès suit son cours. Les défenseurs des droits humains risquent jusqu'à 3 ans de prison. Donc on demande l'acquittement des membres du groupe Solidarité LGBT, de mener une enquête approfondie, impartiale et efficace sur l'usage disproportionné de la force par la police et de respecter les obligations internationales en matière de droits humains, notamment celle de garantir la liberté d'expression et de réunion. Voilà.
Maintenant, nous allons en Algérie. Nous allons vous parler de Khaled Drareni. Quand l'Algérie descend dans la rue semaine après semaine pour réclamer la démocratie, impossible de manquer la haute silhouette de Khaled Drareni, le journaliste est de tous les rassemblements. Depuis le début, en février 2019, il couvre en direct la mobilisation, le Hirak, ce qui lui vaut plusieurs interpellations et de multiples menaces, mais accroît encore sa popularité. Car Khaled Drareni a déjà une longue carrière derrière lui. On connaît sa rigueur, on se souvient de ses interviews télévisées sans concession. Pourquoi doit-on s'abstenir de dire la vérité ? Dit-il souvent. Une phrase qui résume sa vocation, courageuse dans un pays où la liberté de la presse ne cesse de reculer. Désormais, directeur du site d'information Casbah Tribune, correspondant de TV5 Monde et de Reporters sans frontières, il est très suivi sur les réseaux sociaux. C'en est trop pour le régime algérien, puisqu'il ne veut pas entendre les avertissements qu'Khaled Drareni est arrêté en mars 2020. Il sera condamné en appel à 2 ans de prison ferme pour incitation à un attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire national. Des accusations absurdes et un verdict d'une rare sévérité en forme d'avertissement à ses collègues. Pour enfoncer le clou, le journaliste est traîné dans la boue. Au sommet de l'État, on insinue qu'il a trahi son pays. Mais il en faudra plus pour le faire plier. À la barre, Khaled Drareni apparaît très amaigri, mais toujours aussi combatif. Donc nous demandons aux autorités algériennes de libérer immédiatement et sans condition ce journaliste, ainsi que tous les prisonniers d'opinion détenus en Algérie dans le cadre du mouvement de contestation pacifique Irak, d'arrêter le harcèlement à l'encontre des journalistes et de protéger leur travail, de protéger les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique de tous et de toutes en Algérie. Donc, on écrira aux autorités algériennes, au président de la République, au Premier ministre, et on enverra des témoignages de soutien aussi à Khaled Drareni.
Bien, le cas suivant concerne l'Afrique du Sud. Poppy Gwabe, 24 ans, et Bonjeka Fungula, 28 ans, s'étaient rencontrés au cours d'art dramatique et s'étaient installés ensemble à Soweto, près de Johannesburg, dans l'espoir de percer. Un rêve anéanti ce vendredi soir de mai 2017, lorsque les deux amis ont disparu. Leurs proches ont arpenté en vain hôpitaux et commissariats avant que leurs corps ne soient retrouvés. Elles avaient été tuées par balles. Des traces de sang ont été trouvées dans un taxi et 2 chauffeurs ont été arrêtés en possession de certaines de leurs affaires. Mais faute de preuves selon le magistrat, ils ont rapidement été remis en liberté. Et pour cause, La police n'a jamais examiné les empreintes digitales ou rendu public les résultats des analyses de sang, si bien que les poursuites ont fini par être suspendues en attendant une nouvelle enquête criminelle qui n'a jamais été menée. Les enquêteurs n'ont pas non plus pris la peine de vérifier si les jeunes femmes avaient été victimes de viol. Deux autres femmes ont été retrouvées mortes à Soweto le même week-end que Poppy et Bonjeka. Selon les statistiques officielles, une femme est tuée toutes les trois heures en Afrique du Sud. Face à ce bilan désastreux, la mobilisation enfle au sein de la société et le gouvernement a lancé en 2020 un vaste plan d'urgence contre les féminicides. Pour les proches des deux amis cependant, l'attente n'a que trop duré. Il faut dénoncer ces choses lorsqu'elles se produisent et se battre pour obtenir justice, affirme le cousin de Bonjeta. C'est dur de vivre sans pouvoir faire son deuil à cause de toutes ces questions qui restent sans réponse. Donc on interpellera les autorités d'Afrique du Sud pour leur demander de mener une enquête exhaustive et impartiale sur l'assassinat de Poppy et Bonjeka et de traduire en justice les auteurs de ce crime.
Voici le cas de Nassima Al-Sada en Arabie Saoudite. Alors que les autorités saoudiennes ont enfin mis en place des réformes qui ouvrent certains droits aux femmes saoudiennes, celles qui ont milité pour ces avancées sont aujourd'hui derrière les barreaux. C'est le cas de Nassima. Au moment même où l'Arabie saoudite mettait fin à l'interdiction honteuse faite aux femmes de conduire, le régime saoudien jetait en prison toutes celles qui s'étaient battues pendant des années pour obtenir ce droit. Une douzaine d'activistes de premier plan sont arrêtées entre mai et juillet 2018, parmi lesquelles Nassima. Révoltée par le fait que de nombreuses démarches quotidiennes soient soumises à l'autorisation d'un homme, elle écrivait « Pourquoi n'y a-t-il pas un âge auquel une femme est considérée comme une adulte, responsable de ses décisions et de sa vie ?» Cette femme courageuse a consacré sa vie à faire campagne pour les droits des minorités et les droits des femmes dans son pays. Elle a même tenté en 2015 de se présenter aux élections municipales ouvertes aux femmes pour la première fois en Arabie saoudite. Arrêtée en 2018 en raison de son travail de défense des droits humains, elle a été maintenue en détention à l'isolement pendant un an. Aujourd'hui, Nassima n'est plus à l'isolement et a quelques contacts, trop rares, avec son avocat et ses proches. Accusée de communication avec des entités étrangères hostiles et d'atteinte à la morale et à l'ordre public, ce n'est qu'en juin 2019 que démarre son procès. Cependant, les audiences ont été constamment reportées. Pendant que Nassima et d'autres militants saoudiens de premier plan sont emprisonnés en raison de leur travail pour la défense des droits humains, les autorités saoudiennes tentent de redorer leur image à l'international en communiquant sur les réformes ouvrant plus de droits aux femmes. Nassima a sacrifié sa liberté pour que d'autres puissent jouir de la leur. Donc nous demandons aux autorités saoudiennes de la libérer immédiatement et sans condition, ainsi que toutes les défenseurs des droits des femmes, d'abandonner toutes les charges qui pèsent contre elles et contre tous les militants, injustement emprisonnés en raison de leur travail en faveur des droits humains. On s'adresse évidemment à Sa Majesté le Roi et on envoie des témoignages de soutien à Nassima.
Bien, maintenant, nous allons partir en Colombie pour le cas suivant. Qui est en soutien à Javi Silva. Ce n'est pas aujourd'hui que Javi Silva va se laisser intimider. À 57 ans, cette femme joviale au caractère bien trempé a consacré sa vie à la défense de l'environnement et des petits paysans de Putumayo dans le sud de la Colombie. Avec l'Association pour le développement intégral et durable de la Perla Amazonica, elle lutte contre l'extraction pétrolière, l'accaparement des terres et la déforestation dans cette zone à la biodiversité hors du commun. Elle milite aussi pour la mise en œuvre des accords de paix signés dans le pays en 2016 qui prévoient des aides à la reconversion des champs de coca en culture légale. Autant d'activités qui lui valent de nombreux ennemis, depuis la compagnie pétrolière Amerisur jusqu'aux différents groupes armés impliqués dans le trafic de stupéfiants. Menacée de mort en décembre 2017, Jani Silva est contrainte de quitter son domicile avec sa famille. Mais le danger persiste. À plusieurs reprises, ces derniers mois, elle remarque une surveillance étroite et des mouvements suspects autour d'elle. En mars, la défenseuse des droits humains est informée qu'un plan visant à l'assassiner. Le mois suivant, des coups de feu sont tirés près de chez elle. « Parce que je défends mon territoire, j'ai un pistolet sur la tempe », affirme Jani Silva. « Mais nous ne pourrons pas nous permettre de fuir et de nous laisser gagner par la peur. Plusieurs centaines de leaders sociaux et de défenseurs des droits humains ont déjà été assassinés depuis 2016 en Colombie, dans une impunité presque totale. On va donc demander aux autorités colombiennes de protéger efficacement Jani Silva en déployant les moyens de l'unité nationale de protection, des gardiens du corps, un véhicule blindé et un bateau protégé pour ses déplacements, et d'élaborer un plan de protection collectif pour les habitants de la zone de réserve paysanne de la Perla Amazonica. Voilà. Bon, on avait d'autres cas, mais on va pas vous les lire tous ce soir parce qu'on va manquer de temps. Et il y a d'autres sujets à l'émission. Et donc, on va passer maintenant quelques minutes de musique. Et on se retrouve, en fait, juste après.
We are the amputee, cut off at our knee. Something's tickling at our feet. No more to suffer us, the dull threat of us. Once our heels they clack in the street. I miss you so bad. I miss you so bad. Yeah. We are the stigmatized, the brush set aside. Our love and our hate, smooth and shine. No more extremity, no more possibility. Like forgotten skittles, we wait for our stride. I miss you so bad. I miss you so. I miss you so bad. If I could look to you and whisper in your ear.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la suite de son émission sur les droits humains. Et donc, encore une fois, comme la dernière fois, d'ailleurs, on s'est laissé surprendre par la fin du disque. Voilà. Donc, pour continuer l'émission, on a un gros dossier, mais c'est Juliane qui va vous en parler. C'est sur Amazon et donc responsabilité sociale des entreprises. Mais est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus, Juliane ?
Alors, tout d'abord, on va un peu parler du Black Friday qui a été décalé au 4 décembre, bientôt. Les fêtes de Noël approchent, mais qu'est-ce que ça signifie Black Friday ? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Bon, alors je pense que vous êtes à peu près tous au courant. Ce sont des grosses enseignes telles Amazon, Cdiscount, Apple, etc., qui profitent de ce phénomène pour proposer des réductions sur des articles qui sont souvent peu soldés, comme des ordinateurs, des appareils photos, pendant 24 heures ou plus souvent tout le week-end, ce qu'on appelle le cyber week-end. Alors, qu'est-ce que ça implique ? D'où ça nous vient ? Des États-Unis ? Alors, plusieurs constats qui concernent notamment la question écologique. Donc là, je vais vous parler un petit peu plus d'Amazon. Donc cette question écologique, dans le viseur des associations et ONG telles ATTAC, les Amis de la Terre, qui dénoncent les émissions de gaz à effet de serre de la multinationale, 55 millions 8 de tonnes de gaz à effet de serre pour 2018, soit l'équivalent des émissions du Portugal quand même. Les pratiques de la firme transnationale Amazon occasionnent aussi un gaspillage considérable. 3 millions d'invendus détruits par Amazon, donc des produits neufs, en France en 2018. Alors, j'ai trouvé un petit article dans un magazine pareil que vous connaissez peut-être, Culture Bio, qui nous parle de sobriété et de la méthode bisou. Alors, je vous lis l'article rapidement. Black Friday, promo, Noël et ses cadeaux. Vaut-il encore enfoncer le monde dans la surconsommation d'objets quand l'agence de la transition écologique explique dans une infographie que nous consommons 3 fois plus qu'il y a 60 ans, 99% d'équipements électriques, dont 6% jamais utilisés, 60% d'habits achetés en plus depuis 2002, gardés 2 fois moins longtemps et portés beaucoup moins, 7 à 10 fois seulement, et que dire des 10 minutes de temps moyen d'utilisation dans la vie d'une perceuse ? Pour acheter plus en conscience, connaissez-vous la méthode bisou lancée par Marie Lefebvre et Evelyne Herberken ? 5 questions à se poser avant de dégainer le porte-monnaie ou plus souvent la carte bleue. B comme besoin, à quelle nécessité cet achat répond-il ? I comme immédiat, puis-je attendre un peu ? S comme semblable, ai-je déjà un objet similaire ? O comme origine, où, comment et par qui est-il fabriqué ? U comme utile, va-t-il apporter un confort primordial ? On revient maintenant dans la sphère Amazon. La question des emplois, qui est le principal angle d'attaque d'Amazon, de mettre en avant donc cette création d'emplois, argument fallacieux puisqu'on estime, on a un peu plus de recul si on considère un peu comment ça se passe aux États-Unis. Selon les mêmes associations, là encore, pour un emploi créé, Amazon en détruirait 2. Donc on a pu mesurer cet impact aux États-Unis, là où la firme s'est créée, notamment à Seattle, en 1994. Pourquoi ? Par le développement d'entrepôts entièrement robotisés, par des livraisons par drone, etc. Au-delà des emplois, mais là encore dans le même sujet, les conditions de travail. Les emplois, la plupart du temps, sont des emplois précaires, en intérim. Les travailleurs et travailleuses s'épuisent dans des entrepôts gigantesques. 152 000 m2 à Brétigny-sur-Orge, centre de distribution inauguré en octobre 2019, tout récent. Les chiffres sont en France Bleu, 3000 salariés pour 670 CDI, les autres sont des intérimaires. Amazon promet de pérenniser 1000 postes supplémentaires d'ici 2003, mais faut-il y croire ? L'obsession de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon et créateur de la firme, son obsession étant la satisfaction du client, les repas fournis en moins de 30 minutes. Amazon fournit aussi des produits alimentaires. Les salariés sous surveillance, la reconnaissance faciale, etc. La plupart des salariés travaillent maintenant 50 heures par semaine. Il n'est pas rare que certains et certaines fassent des journées de 13 heures. Le recours aux heures supplémentaires est massif, expliquait M. Mick Wicks, le coordinateur national chargé d'Amazon au sein du syndicat GMB, syndicat au Royaume-Uni. Ensuite, la question de la santé au travail. Avec la pandémie de Covid-19, ça ne s'est pas arrangé. Donc, outre les conditions de travail déplorables, dénoncées par divers syndicats à travers le monde, les travailleurs et travailleuses testés positifs et positives au Covid-19 se sont multipliés en mars dernier. Mais au lieu de fermer les entrepôts et d'assurer la désinfection des lieux, qui était une demande de la Confédération syndicale des commissions ouvrières madrilènes, donc là, passée en Espagne, Amazon a refusé et a préféré recruter 2 nouveaux intérimaires pour remplacer les personnes malades. Certains et certaines n'ont pu travailler que quelques jours, car sitôt entrés, ils ont eux-mêmes développé les symptômes. Bon, sachant que ça s'est un peu amélioré par la suite, puisque Amazon avait été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 avril, juste avant le confinement, enfin pendant le confinement, ne vendre que des produits de première nécessité, parce que ce n'était pas le cas. Amazon avait ensuite fermé pour environ 5 jours ses entrepôts pour assurer la désinfection et se mettre aux normes. Excusez-moi. Que fait le gouvernement français face à cela ? Pas grand-chose. Il se refuse à stopper les projets en cours des 10 entrepôts, des centres de tri, des agences de livraison. Interdit au commerce de vendre des produits non essentiels. Les livres entraient dans cette catégorie, excepté aux géants de la vente en ligne, ici Amazon. Ensuite, comment a réagi la société civile ? En réaction, des membres de la Convention citoyenne pour le climat, qui réunit 150 individus, tirent au sort une expérience démocratique d'une ampleur inédite, mise en place l'année passée, qui se voulait une réponse à la crise des Gilets jaunes. Ils avaient proposé un moratoire sur la construction de nouvelles surfaces commerciales. Cela ne semble pas avoir été entendu par le gouvernement français, puisque les entrepôts du e-commerce en sont exclus. Le moratoire aurait permis de réfléchir à des alternatives en matière d'emploi et de développement de la vie locale, qui seraient compatibles avec les enjeux climatiques et sanitaires actuels et futurs. Le vote de la loi Convention citoyenne pour le climat constitue l'une des dernières opportunités pour stopper l'expansion du géant Amazon, entre autres. Bon, un exemple du contenu de cette loi. Une taxe exceptionnelle, allons chercher l'argent où il se trouve, sur le chiffre d'affaires d'Amazon et d'autres géants profitant de la crise sanitaire actuelle, qui permettrait de financer des mesures de préservation de l'emploi et le fonds de solidarité pour les commerces de proximité. Alors, un point rapide là-dessus, pourquoi imposer le chiffre d'affaires d'Amazon ? On sait déjà que Amazon est une entreprise américaine et que la plupart de son chiffre d'affaires bénéficiaire, enfin de ses bénéfices, sont plutôt déclarés dans des paradis fiscaux aux États-Unis. Et l'impôt sur les sociétés que paye Amazon ne concerne qu'une petite partie de son chiffre d'affaires, donc pas grand-chose. Alors, du côté du droit. Alors, je vais me pencher un peu plus longtemps sur le devoir de vigilance qu'on impose aux multinationales depuis une loi de 2017, qui avait été notamment soutenue par Amnesty International. Donc, en France, Action Aïd, Les Amis de la Terre, Amnesty encore, CCFD, Terre Solidaire, le collectif Éthique sur l'étiquette et Sherpa, donc déposaient en 2013 déjà, avec des parlementaires français, une proposition de loi qui portait sur le devoir de vigilance des multinationales. Les organisations patronales et les milieux d'affaires ont combattu férocement et usé de toute leur influence pour tenter d'empêcher l'adoption de cette loi. Donc, elle était adoptée en mars 2017. Après 3 ans et demi donc de débat. La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre marque une véritable rupture. Il s'agit d'un instrument juridique contraignant, le seul, qui contraint les entreprises à répondre de leurs actes devant les tribunaux français pour les atteintes aux droits humains, à l'environnement, engendrées par les activités de par le monde, y compris de leurs filiales, fournisseurs ou sous-traitants. D'autres pays européens, comme les Pays-Bas, ont un peu suivi le mouvement et aussi légiféré de leur côté. Alors, pour parler, insister un peu plus sur ce devoir de vigilance, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça regroupe ? Alors, ce que doivent fournir les multinationales pour répondre à cette obligation. Ça commence par une cartographie des risques, des procédures adaptées d'atténuation des risques et de prévention des atteintes graves, des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves, je crois que je l'ai déjà dit, et un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales. Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité. En cas de non-respect, toute personne ayant intérêt à agir pourra saisir le juge français. La responsabilité civile de l'entreprise pourra être engagée, et une indemnisation des victimes sera évidemment possible. Alors, qu'est-ce qui a été reproché à ce devoir de vigilance qui, finalement, est insuffisant ? Plusieurs choses. Déjà, la loi ne concerne que les entreprises françaises, donc qui ont leur siège social en France, ce qui va évidemment, par exemple, ne pas concerner des entreprises comme Amazon, qui a son siège social à Seattle. Également, la charge de la preuve incombe aux victimes ou personnes qui se disent victimes. Donc, pour là encore, c'est ce qui rend la preuve très très compliquée. Également, les premiers plans de vigilance qui ont été publiés sont considérés comme, comme insuffisants, voire inexistants, notamment par les Amis de la Terre. 2 ans après l'adoption de la loi, parmi les 80 plans analysés par cette ONG et leurs partenaires, la plupart ne répondent que très partiellement aux exigences de la loi en termes d'identification des risques de violation, de localisation et les mesures mises en œuvre pour les empêcher. Cela dans des secteurs identifiés comme particulièrement risqués en matière d'atteinte aux droits humains et à l'environnement. Quelques exemples, les secteurs extractifs, l'armement, l'habillement, l'agroalimentaire, le bancaire. Donc au-delà de ça, je vous l'ai dit, ça ne concerne pas toutes les entreprises, puisque si on se penche un peu sur la loi, elle concerne les entreprises de plus de 5000 salariés. Entreprises françaises, là encore. Donc, un grand nombre d'entreprises échappent à ces obligations, notamment des entreprises du secteur extractif comme Perenco, qui est une entreprise pétrolière franco-britannique que vous ne connaissez peut-être pas très bien. Entreprise, du moins son action pointée du doigt par les médias, pour des pollutions, des dégradations environnementales, aucune prise en compte des communautés sur place, locales, répression des voix critiques, etc. Son siège social est situé aux Bahamas. Un site pétrolier de Moanda, au Bas-Congo, en RDC, l'ONG CCFD Terre Solidaire, avec des partenaires congolais, ont publié un rapport sur le sujet en 2014 déjà. Donc, toujours concernant cette société pétrolière, l'entreprise semble s'être fait une spécialité de cultiver des réseaux et relations étroits avec les milieux dirigeants, aussi bien en France et en Grande-Bretagne que dans les pays où l'entreprise investit, rapportait le journaliste Olivier Petitjean dans Bastamag. Voilà.
D'accord. Merci. Effectivement, c'est tout à fait intéressant. Je m'attendais effectivement à ce que tu parles d'une autre communauté. Tu en avais parlé avant l'émission là, en Amérique du Sud, je crois. Mais bon, c'est pas grave.
J'ai fait quelques modifications.
Oui, c'est ça la radio, effectivement. On s'adapte aussi à l'horaire parce que le temps passe toujours vite, donc voilà. Simplement par rapport à ce que tu disais, je voudrais juste faire deux petits commentaires parce que effectivement, on parlait du fait que à cette époque de confinement, beaucoup de gens effectivement préparent les fêtes de Noël et les achats de Noël sur Internet, ce qui est tout à fait logique, et donc aussi sur Amazon. Et faut bien se rendre compte que j'ai regardé, sur le conseil de Juliane d'ailleurs, un documentaire très intéressant qui s'appelle Le Monde selon Amazon, et qui est toujours disponible sur le replay de la chaîne de LCP, la chaîne parlementaire, et qui montre bien qu'en fait, derrière cette activité de commerce absolument, qui s'est énormément développée à travers le monde, signée Amazon, il y a en fait toute une vision du monde qui n'est pas du tout celle qui est une vision du monde qui n'est pas du tout compatible avec la défense des droits humains, pour parler tout à fait simplement. Parce qu'en fait, la vision, principalement la vision de son PDG, qui s'appelle Jeff Bezos, si je ne me trompe pas, c'est effectivement de dire que seul l'argent, la richesse et le développement économique sont utiles, et que effectivement, tout ce qui concerne la citoyenneté, la démocratie et la prise des décisions dans leur vie quotidienne par les gens devrait pas dans le futur, effectivement, considérablement se relativiser et disparaître à terme. Donc, bon, ça, je fais un petit résumé de ce qui est expliqué dans ce film, mais ça va effectivement dans ce sens-là. Et il y a deux exemples qui ont été pris dans les interviews. Il y en a une de Mia Passage où Jeff Bezos est interviewé par un journaliste allemand, où il dit qu'en fait, dans son entreprise, donc Amazon, il n'y a pas besoin de syndicats parce que les syndicats sont une gêne entre le dialogue direct entre la direction et les salariés. Comme vous disait effectivement Julien, la plupart des salariés sont en contrat précaire, en contrat court. On imagine bien que leur pouvoir, entre guillemets, de salarié vis-à-vis des directions est quasi nul. Et ce genre d'affirmation de dire on n'a pas besoin de syndicat, ça reviendrait, c'est une comparaison qui m'a traversé l'esprit, ça reviendrait à dire par rapport à une femme qui est victime de violences conjugales, que l'intervenant extérieur lui dirait « Tenez, je vous ai donné un peu de sparadrap et deux ou trois pansements, vous pouvez rentrer chez vous, vous êtes maintenant à égalité. » Donc, effectivement, c'est tout à fait inadmissible. Et la deuxième, j'en terminerai là-dessus, la deuxième séquence qui m'a frappé dans ce film, c'est qu'à la fin, il est présenté donc à Seattle, qui est la ville où est le siège aux États-Unis, où est le siège social d'Amazon, qui possède maintenant 20% des immeubles du centre-ville, c'est vous dire effectivement leur poids. Il y a en fait des salariés américains qui ne travaillent pas chez Amazon, qui ont de très mauvais salaires, au niveau du SMIC américain, et qui donc sont amenés à dormir dehors parce qu'en fait le prix des loyers a considérablement augmenté parce que la plupart des recrues que fait Amazon à Seattle, à son siège social, ce sont des cadres supérieurs. Donc les loyers ont suivi l'évolution des salaires et donc maintenant les loyers sont hors de prix et les gens dorment dehors. Et donc il y a 2 ans ou 3 ans, la ville de Seattle avait fait passer une loi disant que les multinationales, dont Amazon, devaient payer annuellement une taxe sur les plus hauts salaires de leurs salariés, une taxe à la ville qui servirait à construire des logements sociaux. Et monsieur Jeff Bezos, après avoir accepté cette loi dans un premier temps, 48 heures après, a mené une campagne d'information ou de désinformation en disant c'est une atteinte à la liberté d'emploi, on va nous faire nous obliger à licencier du personnel parce qu'on pourra pas payer la taxe, effectivement. Et il a complètement retourné l'opinion de façon à ce que la ville supprime, au bout de 6 mois, supprime ce projet de taxe pour financer les logements sociaux. Et la dernière séquence du film, on voit des salariés américains aller dormir le soir dans le hall de la mairie, par terre, parce qu'ils ne peuvent pas vivre autrement. Donc voilà, ça c'est la vision du monde par monsieur Jeff Bezos. C'est une vision qui n'a rien à voir et qui est incompatible avec une défense minimale des droits humains. Pensez-y quand vous allez sur Amazon. Voilà.
Sachant que, à la limite, s'il reste...
Oui. Françoise, je vous fais un petit signe pour passer à la deuxième pause musicale. Oui, Françoise, on va le faire tout de suite.
Ok, suspense.
Non, vas-y,
termine. Alors oui, si vous voulez faire vos achats par Internet, ce qui est quand même assez pratique en temps de pandémie, vous avez quand même des systèmes qui sont mis en place de click and collect ou click and rappli, aussi avec Artisans du Monde ou des librairies indépendantes, qui mettent en place ces systèmes. Donc si vous avez tout à fait la possibilité d'acheter en ligne des articles que vous pourrez trouver ailleurs que sur la plateforme Amazon... Et ça permet d'encourager des commerces locaux et un peu de faire face à ce géant qui détient un monopole et qui impose ses règles sur le marché.
Bien sûr.
Oui. C'était une remarque, on l'avait déjà dit à la dernière émission, mais c'était très juste que tu le rappelles, Juliane, effectivement. Oui, il faut effectivement faire vivre les gens qui sont proches de nous et qui en ont bien besoin. On s'arrête quelques minutes.
Il est pas comme nous, pas d'ici. De quelle couleur, de quel pays? L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Comme toujours, c'est les autres. Ceux qui disent ils viennent d'où, c'est pour le job et nous piquer les sous. Ferme bien ta porte, va crier au loup. À qui la faute à tous les coups? L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Comme toujours, c'est les autres. We'll be right back. triste à tout faux. Y a des sourires qui tirent dans le dos. Toutes ces belles paroles qui clouent tes mots. Et fais gaffe, on en veut à ta peau. L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Comme toujours, c'est les autres qui déclament leur vérité. Science infuse et phrases faciles. Convoitise et manque d'humilité. Nous garantit l'enfer à jamais. Agite, ceux qui polluent, ceux qui préfèrent la fuite. Les sans-respect nous parlent d'injustice. Les premiers à dire mais que fait la police. Tu ne supportes plus l'autre qui t'épie. Te harcèle, magouille, te détruit. Mais t'es aussi cet autre pour celui qui dit et redit à l'infini. L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Comme toujours. L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Comme toujours. L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Comme toujours. L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Comme toujours. C'est les autres.
Sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International. On vient d'écouter Paul Person. Je suis un fan de Paul Person, hein, vous le savez déjà. C'est ça. Attends, micro. Attends, François, j'ai remis ton micro. Excuse-moi, j'avais pas remis ton micro.
Ah
donc,
bon
voilà. Non, mais ça y est, t'es revenu à la radio.
D'accord, merci.
Donc, Paul Person, que j'aime bien, c'est son dernier disque et le morceau s'appelle L'enfer, c'est les autres. Inutile de vous dire que c'est en droiting avec les droits humains. Il suffit d'écouter les paroles. Et le premier morceau qu'on l'a pas présenté, c'était Titor Sticks. Un groupe anglais qui a joué au mois de mars au Cube avec nos amis du Cube et c'était un excellent concert. Voilà. Donc, pour terminer l'émission, je vais vous parler d'un sujet qui est dans la chronique. La chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France. On ne peut encore une fois que vous recommander de vous abonner. Vous avez le formulaire d'abonnement sur le site. C'est diffusé que par abonnement. Et donc, www.amnesty.fr. Et donc le mensuel La Chronique et le formulaire d'abonnement. Et donc dans le dernier numéro qui est sorti, il y a un article sur l'antisémitisme 2.0, c'est-à-dire l'antisémitisme par Internet. Et là, on n'en parle pas beaucoup non plus. L'antisémitisme, alors voilà comment l'article, je vais juste vous lire le début, hein, donc je vous renverrai à La Chronique pour lire la fin, qui est tout à fait intéressante. l'antisémitisme a un nouveau visage. Fini les mensonges à répétition de Papy Le Pen sur la réalité de la Shoah. Il est jeune, affiche un vernis de rébellion anti-système et tisse ses fils sur les réseaux. Les sites complotistes allant jusqu'à s'immiscer dans les paroles du chanteur underground, dernier exemple en date, le rappeur Made in France, Freeze Corleone, dont les clips ont provoqué, mi-septembre, l'ouverture d'une enquête pour provocation à la haine raciale et injure à caractère raciste. Le rappeur de 28 ans ne méritait pas que l'on s'attarde sur son cas s'il ne caracolait en tête des ventes, car à peine sorti, son album était écouté 5,2 millions de fois en 24 heures. Les paroles de certaines de ses chansons, clairement antisémites et négationnistes, ne rebutent donc pas les millions de femmes, même quand il chante qui lui a vu fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller, moi j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. C'est une citation. Ou rien à foutre de la Shoah. Ou encore Shenzhen, entre parenthèses, Shenzhen c'était un artiste dissident chinois, j'ai les techniques de propagande de Goebbels. Le chanteur ne cache pas ses sources d'inspiration. Ce sont les mêmes que toute cette nouvelle génération d'antisémites qui a grandi après le 11 septembre, embarquée par la vague du complotisme version Soral et Dieudonné. Le premier essayiste d'extrême droite vient d'être une fois de plus condamné pour avoir imputé aux Juifs l'incendie de Notre-Dame. Le deuxième, ancien humoriste, pour avoir tenu des propos injurieux à l'égard des Juifs victimes de l'Holocauste. Si cette résurgence de l'antisémitisme est parfois rattrapée par la justice, nombre de propos passent entre les mailles du filet. En quelques clics, depuis son ordinateur, avec un moteur de recherche lambda, on associe à chambre à gaz, mythe, bidon, rat. Quand Tristan Mendes-Franc, spécialiste des réseaux sociaux, tape chambre à gaz sur son smartphone, la seconde occurrence associée est rapport Leuchter, du nom d'un disciple américain de Robert Forisson, le militant négationniste français. La troisième est aucune preuve après 33 ans de recherche, et la quatrième preuve, tout simplement. La cinquième est pire, Auschwitz, une supercherie évidente. Si l'antisémitisme 2.0 a un nouveau visage, il se nourrit des écrits de penseurs antisémites notoires de la fin du 19e siècle, tels que Drummond ou Maurras.
Oh là là, Charles Maurras ?
Oui. Mais oui, François se connaît. J'en ai souvent entendu parler, je n'ai jamais rien lu de lui, mais je ne lirai jamais rien. Confiné depuis l'après-guerre à quelques librairies confidentielles, ces auteurs ont trouvé avec le web un regain d'audience. Cercle identitaire d'extrême droite, réseau islamiste, Rouge-Brun sont les acteurs diversifiés de la prolifération des propos en commentaires antisémites. Tous utilisent à la perfection les failles du système numérique pour propager leurs idées. Si leurs techniques de dissémination sont variées, de plus en plus sophistiquées, le mensonge et l'insinuation en sont toujours les ressorts. La matrice, c'est la haine de l'autre, explique Frédéric Potier, préfet et directeur de la DILCRAN, la délégation interministérielle chargée de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. L'antisémitisme frappe toutes les classes d'âge et toutes les populations. De vieilles théories alimentent les nouvelles haines, dont le moteur le plus puissant est sans doute aujourd'hui l'islam radical et la haine d'Israël. Le web permet la massification des insultes et la viralité des messages de haine. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. L'article se poursuit pendant plusieurs pages. Donc, je vais pas toutes vous les lire, effectivement. Il parle, par exemple, aussi du business de l'antisémitisme, en citant, effectivement, le site de Monsieur Soral, dont on a parlé au début, de Monsieur Alain Soral, antisémite et raciste notoire, qui se fait beaucoup d'argent en vendant des produits, effectivement, sur son site et des publications. Donc, effectivement, l'antisémitisme rapporte de l'argent et la haine aussi. Et il y a également un article, et je m'arrêterai là, qui fait suite, qui est sur une obédience aux États-Unis, dont vous avez peut-être entendu parler. Moi, j'étais sidéré en apprenant son existence sur un reportage sur Arte qui s'appelle QAnon, qui a soutenu la campagne électorale de M. Trump et qui prétend qu'il y a une conspiration aux États-Unis. Le Parti démocrate aurait à sa tête des pédophiles entretenant un réseau mondial d'enlèvement et de viol d'enfants. Voilà où on est réduit le débat aux États-Unis avec une secte de type QAnon. Voilà.
Bon, et ben moi, je voudrais terminer sur une note optimiste.
Françoise a pris le micro d'office, elle a raison.
Un militant d'Amnesty remet le prix Liberté. Membre de l'antenne jeune du lycée Jean Moulin aux Andelys, Lucas a eu la chance de participer au jury international de l'édition 2020 du prix Liberté, créé par la région Normandie. Avec 23 autres jeunes venus du monde entier, Lucas a récompensé la défenseure saoudienne des droits humains, Loujain Al-Atoul, devant les finalistes Nasrim Soudoutev, avocat iranienne, et le père Pedro Opaka, qui agit contre la pauvreté à Madagascar. Et la dame, comment dirais-je, de quel pays déjà?
Pas quelle dame tu peux...
Loujain Al-Atoul.
D'Arabie Saoudite.
Voilà, d'Arabie Saoudite, pardon, oui. Et bien, elle succède à la militante écologiste Greta Thunberg. Voilà.
Juste une petite remarque, tu citais Nasrin Sotoudeh, qui est donc une avocate iranienne, tu citais dans tout le petit communiqué. Là. On a eu une...
On a été informé qu'elle a été... Oui. Elle a eu une sortie de prison.
C'est hein. Ça. On a une demi-bonne nouvelle, c'est une personne, une avocate iranienne condamnée à, je crois, 18 ans de prison, quelque chose comme ça l'année dernière.
Oui, qu'on a beaucoup soutenue. Hein.
Qu'on soutient toujours, d'ailleurs.
Oui, qu'on soutient.
Et elle a été mise, elle a fait une grève de la faim cette année, parce que ses conditions de détention étaient épouvantables. Elle a obtenu une libération provisoire pour raison de santé. Mm-hmm. Donc, on s'est réjoui du fait qu'elle puisse sortir de prison. On ne se réjouit pas du tout du fait que, pour l'instant, sa condamnation n'a pas du tout été annulée. Donc voilà, elle est actuellement chez elle. Elle a remercié, il y a un communiqué qui est paru sur le site d'Amnesty, elle a remercié Amnesty pour le soutien qu'on lui a témoigné depuis le début de son incarcération. Mais le combat est loin d'être fini parce qu'elle est supposée retourner en prison. Voilà, notre prochaine émission, parce qu'on s'approche du terme de l'émission, et notre ami du laboratoire est déjà arrivé, il a pris place au fond du studio. Donc voilà, on va lui laisser l'antenne avec grand plaisir. Notre prochaine émission, c'est quand, Françoise?
Le mardi 15 décembre et l'autre le mardi 29 décembre.
Voilà, alors je sais que dans la prochaine émission, on a prévu déjà, avec quelqu'un qui va venir aussi en parler avec nous, d'intervenir beaucoup sur ce projet de loi sécurité globale. J'en ai dit quelques mots au début de l'émission, mais c'était qu'une mise en bouche, si on peut dire. On va en parler beaucoup plus longuement les prochaines fois. Encore une fois, c'est une loi qui est actuellement en discussion au Parlement, qui est en train de faire la navette entre l'Assemblée, où elle a été votée en première lecture, et le Sénat. Elle va revenir après, elle va sûrement passer au Conseil d'État, donc ça va prendre du temps. Mais il faut continuer à faire la pression vis-à-vis des élus, parce que c'est une loi qui a des volontés évidentes, liberticides, même si, effectivement, ce n'est pas dit comme ça dans le texte. Mais ça, c'est très clair. Donc, il ne faut pas laisser passer les choses. Et il y a aussi un deuxième projet de loi, mais je m'arrêterai là, qui va être discuté au mois de décembre, qui vise à restreindre, d'après ce qu'on peut savoir, à restreindre encore plus les conditions d'accueil des réfugiés et des migrants en France. Ça va être discuté au Parlement au mois de décembre, mais on vous en reparlera. Voilà. Bah écoutez, il faut continuer à agir avec nous, donc n'hésitez pas à nous contacter. On vous rappelle le mail du groupe Amnesty, où je dis bien avec un y.evreux@gmail.com, amnesty.evreux@gmail.com. Et puis surtout, on se retrouve à la radio très bientôt. À bientôt.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les